des promenades philosophiques de Diderot aux rêveries de Rousseau, des déambulations nocturnes de Rétif de la Bretonne dans les rues parisiennes à celles de Baudelaire, l'écriture itinérante s'inscrit dans une longue tradition littéraire oscillant entre la promenade en campagne dès la fin du XVIIe et la flânerie urbaine apparue au XIXe. Itinéraire de Chateaubriand, promenade de Stendhal à Rome, pérégrination pédestre de Victor Ségalène en Chine et plus récemment Errance de Jean Rollin ou Marche citadine de Jacques Reda. Les figures multiples d'écrivains marcheurs interrogent sur la façon dont itinérance et écriture se répondent. Parmi eux, deux auteurs contemporains ont retenu mon attention, donc Sylvain Tesson et Philippe Vasset. Sylvain Tesson est connu pour ses récits de voyages lointains et dépaysants, justement, comme celui de son expérience d'ermite au bord du lac Baïkal, qui s'intitule « Dans les forêts de Sibérie », qui a été publié en 2011. Philippe Vasset, lui, est moins présent sur la scène médiatique. Il a été notamment rédacteur en chef d'une publication spécialisée dans le renseignement industriel et politique. L'œuvre de Sylvain Tesson, « Sur les chemins noirs », publiée en 2016, et celle de Philippe Vasset, « Un livre blanc », publiée en 2007, mettent au jour une écriture de terrain qui se pratique à pied, une carte à la main. Et j'ai voulu interroger le dépaysement de ces récits itinérants parce qu'ils sont situés en France, justement. En cela, ils s'inscrivent dans l'esprit de l'anthropologie du proche, initiée notamment par des chercheurs comme Marc Auger ou Michel de Certeau. Quel dépaysement nous promet non pas l'exotique, mais l'endotique, pour reprendre l'expression de Georges Perec dans l'infraordinaire. Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson et Un livre blanc de Philippe Vasset proposent une écriture topographique qui prend pour objet la marginalité des territoires français. Alors pour l'un, il s'agit de la marginalité des chemins ruraux, tracés en noir sur les cartes. Hein, ces chemins noirs, ce sont des anciens sentiers, des coulées de bêtes que Sylvain Tesson emprunte entre le Mercantour et le Cotentin, alors qu'il se remet tout juste d'une longue convalescence. Amoureux des ascensions en tout genre, il avait malheureusement chuté en escaladant la façade d'une maison à Chamonix en 2014. Et après plusieurs mois d'hospitalisation, marcher était pour lui une forme de rééducation. Marginalité des chemins noirs donc, et en regard, marginalité des énigmatiques zones blanches sur les cartes IGN de Paris et sa banlieue. Philippe Vasset explore ces blancs topographiques un à un pendant un an et demi. On a donc l'obscurité des sentiers isolés d'un côté, l'éblouissant néant blanc des périphéries de l'autre, et cette achromie m'a interpellée, parce qu'a priori elle promet l'égarement, et pourtant non, l'itinéraire est toujours sûr, c'est justement le vide des cartes qui guide les auteurs. Noir ou blanc, ruralité ou urbanité, longue marche résiliente ou exploration ciblée, l'apparente antinomie de ses œuvres était aussi une invitation à la comparaison. Et cette antinomie s'efface devant une même particularité. Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson et Un livre blanc de Philippe Vasset proposent, chacun à leur manière, une même logique de décentrement et donc de dépaysement. Leurs marches sont résistantes en ce qu'elles contournent les itinéraires imposés par l'aménagement du territoire. Leurs itinérances sont un refus de l'urbanisme et de son conditionnement. Et pour Sylvain Tesson, il s'agit d'échapper à ce qu'il appelle le dispositif. Il reprend cette notion au philosophe italien Giorgio Agamben. Le dispositif marchand et technologique qui soumet les hommes et qui transforme le paysage. Ce dispositif s'exprime, d'après lui, à travers une politique d'occupation des sols expansionniste. Et bon, il déteste cela. On a le même rejet de l'urbanisme chez Philippe Vasset, mais pas sous la forme d'une haine comme chez Sylvain Tesson. Contourner l'aménagement urbain répond plutôt chez lui à un désir, comme un jeu. Il veut, je cite, « élaborer des stratagèmes pour obliger la ville à tomber le masque ». Ma communication se propose donc d'aborder les œuvres de Sylvain Tesson et de Philippe Vasset comme des itinéraires en territoire dépaysé, l'adjectif étant à saisir selon l'étymologie du préfixe « dé », dépaysé parce que arraché à l'économie du pays, dans les deux sens du terme, économie politique et économie de l'ensemble. Cette acception du sens de dépaysement rejoint pour partie celle de Jean-Christophe Bailly dans son ouvrage « Le dépaysement, voyage en France ». Pour interroger ce que l'on appelle couramment le sentiment d'appartenance, je le rappelle, Jean-Christophe Bailly revisite son propre pays. Convaincu des limites du concept d'identité nationale, il porte son attention sur des points de détail dispersés sur la carte, telle boutique étrange à Bordeaux, les jardins ouvriers de Saint-Étienne ou le cimetière de Toul, entre autres. Et il évoque le dépaysement comme étonnement d'un ailleurs trouvé ici. Cette approche en pointillé contredit l'image d'un pays comme contenant d'une unicité pour proposer au contraire celle d'une multiplicité étirée sur la carte. Jean-Christophe Bailly utilise la métaphore des chemins, justement, pour développer ce deuxième sens du mot dépaysement. Je le cite, « Ce que j'ai tenté au fond, c'est de sonder le long des pistes d'identification qui venaient à ma rencontre, les étranges et imprévues bifurcations qui survenaient toujours, qui toujours emmenaient le pays au-delà de lui-même. » Les chemins qu'empruntent Vassé et Tesson emmènent aussi le pays au-delà de lui-même, mais on peut se demander si leurs œuvres portent le même dépaysement. La démarche de ces auteurs répond à une même critique de l'urbanisme, mais ouvre-t-elle pour autant aux mêmes enjeux littéraires ? Ce sont là les interrogations qui ont guidé ma réflexion sur ces textes. Je parlerai d'abord un peu plus longuement de ces territoires dépaysés qu'explorent ces auteurs. Chez Tesson comme chez Vassé, tout commence par le merveilleux des cartes. L'œuvre de Sylvain Tesson s'ouvre sur une double carte de France, l'une tachetée par les zones noires hyper-rurales et l'autre manuscrite qui dévoile le parcours de l'auteur depuis la frontière italienne, le Mercantour, jusqu'à la pointe du Cotentin, en passant par les Cévennes, l'Aubrac, Tours et le Mont-Saint-Michel. Les cartes IGN vont l'accompagner sur cet itinéraire. Il les contemplait déjà sur son lit d'hôpital. Il les appelle des merveilles. Et il dit qu'il les tient serrées dans son sac comme une photo de fiancée. On a la même admiration des cartes chez Philippe Vassé. Elles offrent à l'œil des paysages idéaux, nous dit-il, qui invitent à l'exploration, et particulièrement ces zones vierges, justement, qui perforent les agglomérations. Je le cite comme une boîte de chocolat vidée de ses meilleures pièces. Au cours de cette quête, j'espérais, comme les héros de mes livres d'enfants, mettre au jour le double fond qui manquait à mon monde. Alors, pour Philippe Vassé, la désillusion ne se fait pas attendre. Les zones blanches cachent en réalité une misère inacceptable et anachronique. Terrain vague, bâtiments à l'abandon transformés en salle de shoot, bidonville. Le blanc des cartes de Paris ne fait que recouvrir ce que la société refuse de voir, comme des coups de correcteur, néantisation de ce qui fait honte. L'aménagement du territoire ne souffre aucun signe de pauvreté. L'urbanisme vise la production d'un espace qui soit propre et fonctionnel, et refoulant ainsi l'anormal et le déviant. Son organisation rationnelle rejette ou du moins cache tous les éléments qui n'y trouvent pas leur place. La désillusion ou l'indignation de Philippe Vassé, qui ouvre son livre, orientera toute son écriture, comment mettre en forme ce qui est recouvert, ou plutôt comment transformer le néant des déchets de l'urbanisme en feuillet d'écriture. Les terrains vagues des périphéries que parcourt Vassé ne sont pas si différents des grands espaces ruraux que traverse Tesson. Même abandon généralisé, les hangars désaffectés répondent aux ruines des anciennes maisons de bergers, même entrelacs de broussailles et de ronces. Ce sont aussi des lieux étonnants où se déploient des pratiques marginales hors la loi. Philippe Vassé rencontre des graffeurs, des explorateurs urbains, des ramasseurs de champignons hallucinogènes qui lui expliquent comment cuisiner les cadavres d'animaux écrasés. Ces zones blanches sont habitées par ce que l'auteur appelle une atmosphère de transgression lasse. Même impression de clandestinité sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, je le cite, « N'en déplaise à Charles Maurras, chantre du pays réel opposé au pays légal, marcher sur les chemins noirs permettait la découverte d'un pays mêmement illégal et irréel. Illégal parce qu'on pouvait dormir devant un feu de bivouac interdit et qu'on rencontrait des types bizarres. Irréel parce que les fantômes y croisaient. » En inversant les termes du nationalisme intégral de Charles Maurras, Sylvain Tesson définit ces lieux à la fois comme détachés des réalités de la vie quotidienne du pays réel et comme dissimulés aux institutions républicaines du pays illégal. En n'étant ni dans l'un ni dans l'autre, ces zones échappent à tout discours identitaire des politiques. D'autant plus que la plupart de ces lieux et chemins n'ont pas de nom, non nommés, donc non habitables, échappant à la localisation des adresses, au courrier des institutions, à la désignation dans les conversations, ce sont en fait des lieux fantômes. Or, disparaître, s'éclipser des radars, être nulle part et surtout être là où l'urbaniste ne les attendait pas, c'est bien cela que recherchent nos auteurs. Les chemins cachés d'une géographie de traverse, nous dit Sylvain Tesson. Et Philippe Vassé explique « Je ne supportais pas l'idée d'une cité totalement balisée, sans jeu entre les diverses constructions, d'un monde où l'on sait toujours où l'on est. » Chemins noirs et zones blanches sont-ils alors des non-lieux ? On peut se poser la question. Alors, l'anthropologue Marc Auger définit les non-lieux en opposition aux lieux anthropologiques. Les lieux anthropologiques sont des constructions concrètes et symboliques de l'espace dans lesquelles chacun a une place sociale qui crée du sens pour lui. Le lieu anthropologique est identitaire, relationnel et historique. Et ce sont ces trois caractéristiques qui manquent aux non-lieux. Les non-lieux, produits de la surmodernité, sont des lieux de transit et de passage où chacun est renvoyé à une individualité solitaire et anonyme. Ce sont les grandes infrastructures des transports, hein, voies rapides, aires d'autoroute, échangeurs. Ce sont les moyens de transport eux-mêmes, TGV, avions. Ce sont les centres commerciaux, grandes surfaces, les infrastructures touristiques de masse. Ces non-lieux ne promettent aucun dépaysement au sens premier du terme. Bien au contraire, ils se ressemblent partout dans le monde. L'expatrié désorienté sera heureux de retrouver ses repères dans le premier hypermarché venu. Le non-lieu, c'est l'anti-dépaysement. Donc finalement, les chemins noirs et les zones blanches de nos auteurs ne sont donc ni des lieux anthropologiques, ni des non-lieux. Ces zones recherchées sont des interstices. Si renversement de la perspective il y a, ce n'est pas tant du centre vers la périphérie, mais plutôt de la densité fonctionnaliste de l'urbain vers les marges qui lui permettent d'exister. Marginalité noire et marginalité blanche sont à entendre au sens de marge de manœuvre. Un espace laissé libre, indispensable pour que les rouages de la structure urbaine puissent tourner, pour que les articulations se correspondent et puissent fonctionner, pour que les réseaux communiquent. Ce sont des lieux préservés parce qu'oubliés, mais qui peuvent être réquisitionnés à tout moment par la machine sociale, pour la construction d'une autoroute ou pour l'implantation des bureaux d'une multinationale. Chemin noir et zone blanche sont des interstices donc inutiles parce qu'ils échappent au fonctionnalisme des urbanistes, mais indispensables parce qu'ils sont la matière liante, la toile de fond du territoire national. La manière dont ces écrivains contournent les aménagements urbains est ce que Michel de Certeau appelle un art de faire dans l'invention du quotidien. Les arts de faire, ce sont toutes ces micro-pratiques des gens ordinaires qui inventent le quotidien en développant des usages détournés, rusés, divergents, avec les objets et les infrastructures qui leur sont imposés par le conditionnement social. Les déplacements de Sylvain Tesson et de Philippe Vassé inventent de nouvelles traverses et outrepassent les limites des espaces urbains. En cela, ils vont plus loin que la dérive des situationnistes. Alors, je rappelle, les situationnistes prônaient une déambulation libre dans la ville, attentive aux émotions, pour désamorcer l'indifférence et réveiller un nouveau regard sur l'urbain. Justement, Tesson et Vassé cherchent à ce qui a échappé à l'urbain et à son pouvoir d'uniformisation. En évitant les territoires et les itinéraires balisés de l'urbanisme, ces écrivains ne disparaissent pas pour autant. Et trace en négatif d'autres territoires et d'autres itinéraires. L'achromie du blanc et du noir s'annule dans leur pratique du terrain, et l'écriture comble le manque des cartes. Paradoxalement, leur allergie au tracé des urbanistes ne les pousse pas à l'errance, je l'ai dit tout à l'heure, bien au contraire, ils développent tous deux une obsession de la trace sur le terrain. Sylvain Tesson s'abîme les yeux à repérer la moindre ligne noire sur les cartes IGN et peste contre les agriculteurs qui coupent les sentiers pour clôturer leurs champs. Vassé passe des heures à retrouver l'emplacement des zones blanches dans une périphérie urbaine qui change plus vite que les cartes. Je le cite, « Mètre par mètre, il fallait reprendre le dessin comme on défait une broderie qui s'est éloignée du patron. » Et il va même jusqu'à tracer des lignes à la bombe blanche pour matérialiser sur place les zones explorées. Cette pratique du terrain dessine en fait une carte alternative que les auteurs superposent à la carte IGN. Alors je me permets un nouveau détour par l'œuvre de Michel de Certeau, parce qu'il différencie lieu et espace. Le lieu, c'est l'ordre dans lequel sont distribués les éléments. Le lieu est une configuration instantanée de position, alors que l'espace prend en compte les déplacements qui se jouent à sa surface. Direction, vitesse, temps, toutes ces caractéristiques des déplacements. L'espace est un croisement de mobiles. En somme, l'espace, c'est un lieu, mais un lieu pratiqué. La carte alternative fournie par nos écrivains marcheurs est celle d'un espace, donc elle raconte l'histoire de la pratique d'un lieu. Et elle vient recouvrir la carte IGN, qui est la carte des lieux, des lieux non pratiqués. Donc j'ai essayé de mettre en évidence le fait que ces deux auteurs adoptaient une même démarche. En effet, pas tout à fait comme le dépaysement de Jean-Christophe Bailly, qui cherche la multiplicité à l'intérieur des frontières. Le dépaysement, selon Sylvain Tesson et Philippe Vassé, c'est plutôt la réalisation d'un paradoxe, fuir à l'intérieur des frontières et fuir l'urbanisme. Utiliser la carte est pour eux un moyen de rechercher les interstices et de faire exister une carte alternative, une carte en négatif, une carte du dépaysement donc, dépaysement parce qu'elle propose un autre point de vue sur le territoire, mais aussi parce qu'elle est superposée à un décroché de la carte institutionnelle du pays. Alors maintenant, on peut s'intéresser sur les enjeux de cette carte alternative, ce sera le deuxième moment de ma communication. L'écriture topographique des écrivains marcheurs suppose deux étapes, plus ou moins distinctes. D'abord un passage de la carte au terrain, puis un second du terrain à l'écriture. Pour le dire autrement, et en reprenant la distinction lieu-espace de Michel de Certeau, l'écriture topographique suppose d'abord la pratique du terrain comme transformation du lieu en espace, et puis l'écriture de cette pratique comme transformation de l'espace en récit. Première étape donc, de la carte au terrain, quels sont les enjeux de la pratique du terrain chez Sylvain Tesson et Philippe Vassé? Alors, il émane du livre de Sylvain Tesson une angoisse de la fragmentation du territoire. À plusieurs reprises, il revient sur la difficulté à trouver son chemin dans une campagne en miettes, c'est son expression. La politique de désenclavement a étalé le périurbain, provoquant ce que les géographes appellent le mitage du territoire. Je cite Sylvain Tesson, « un tissu mou, étrange, n'appartenant ni à la ville, ni à la pastorale ». Alors que Bailly fait de cet émiettement la possibilité même de son dépaysement, Tesson le fuit et marche pour tenter de recréer du lien. En évitant ce qu'il appelle la brûlure du goudron, Sylvain Tesson veut retricoter le maillage effiloché d'une vieille France qu'il imagine retrouver, hein. Je le cite, « les chemins noirs dont je tissais la lisse avaient cette haute responsabilité de dessiner la cartographie du temps perdu ». Son rejet de tout ce qui incarne la surmodernité, nouvelles technologies, vitesse, tourisme de masse, explique cette fuite assumée de son époque par les réseaux des chemins de traverse. Et cette fuite dessine le souvenir de la France piétonne, c'est son expression, la France piétonne, et qu'il regrette sans l'avoir jamais connue. Sa vision du pays comme une patte de France, c'est son expression aussi, une patte de France, résultant d'un lent ruminement des contraires et produisant l'identité nationale dans l'amalgame. C'est dans cette patte de France qu'il trace sa marche, son sillon. Sa marche résiliente est donc un sillon creusé, et elle a creusé assez profondément pour cacher à sa vue l'émiettement qui guette à chaque périphérie des villes. Le dépaysement est chez lui l'expression d'un profond conservatisme et d'une nostalgie incurable. Et sa pratique du terrain est la recherche d'une identité, plutôt que d'une identité nationale, d'une identité rurale. Au contraire, la pratique du terrain chez Philippe Vassé est une recherche de l'émiettement. Ses déplacements sur le terrain sont à l'image de cet émiettement. Quand il va explorer une zone blanche, il faut d'abord qu'il fasse le tour de la zone blanche pour trouver un trou dans le grillage, pour trouver une faille, un talus par où entrer. Ensuite, il est confronté à des sentiers qui s'arrêtent d'un coup, à des murs effondrés, à des mares opaques qu'il faut traverser en canot gonflable. Et il parcourt comme ça, il fait des allers-retours sur ces zones pour effectuer des repérages. Donc si on imagine les lignes tracées par ces explorations sur la carte alternative, chaque expédition serait de gribouillage. Cette pratique du terrain comme une pelote embrouillée est totalement opposée au trajet de Sylvain Tesson en diagonale sur la carte. Et d'ailleurs, cette carte qu'il met dès le début de son livre vient s'opposer aux cartes qui sont présentes dans le livre de Philippe Vassé. Les marches de Philippe Vassé fonctionnent par exploration ponctuelle et localisée, donc à l'image de ces morceaux de cartes agrandies qui apparaissent au fil de son texte et qui sont finalement pour le lecteur davantage des objets esthétiques, parce qu'ils sont fascinants à regarder, plutôt qu'une véritable indication spatiale. Ici, il arrive à Philippe Vassé de vouloir relier ces espaces, c'est pour compiler des circuits touristiques alternatifs, des itinéraires arbitraires, et faire découvrir les interstices à d'autres. Alors ce désir de la transmission donne à son texte un enjeu collectif fort qui n'est pas présent dans le texte de Sylvain Tesson. Nos marcheurs esquivent donc le tracé des urbanistes pour esquisser le trait d'une carte alternative à l'ordre social. Sauf que l'un creuse un sillon unique comme un retour solitaire dans le passé, alors que l'autre ouvre des pistes multiples, défriche et projette des excursions collectives futures. On voit donc que la fuite de l'urbanisme entraîne deux pratiques du terrain différentes. En passant maintenant à la deuxième étape de l'écriture topographique, le passage du terrain à l'écriture, la manière dont les auteurs mettent en mots leur pratique du terrain suppose la résolution d'une problématique. Comment fixer dans le récit un déplacement dans l'espace? Et là se joue l'ambiguïté inhérente au récit que Michel de Certeau met en lumière dans l'invention du quotidien. Si le récit fixe et immobilise, il porte aussi une ouverture. Il est similaire à un lieu pratiqué. Je le cite, « Là où la carte découpe, le récit traverse, il instaure une marche, il guide, et il passe à travers, il transgresse. » Le récit d'un lieu ne peut être que le récit de la manière dont ce lieu est pratiqué, a été pratiqué, le récit d'un espace donc, et tout récit est, d'après Michel de Certeau, un chemin de traverse. Il trouble l'ordre établi parce qu'il est toujours un trajet circonstancié, et c'est ce qu'il appelle la délinquance du récit. Je le cite, « Si le délinquant n'existe qu'en se déplaçant, s'il a pour spécificité de vivre non en marge mais dans les interstices des codes qu'il déjoue et déplace, s'il se caractérise par le privilège du parcours sur l'État, le récit est délinquant. » Chez Sylvain Tesson, comme chez Philippe Vasset, on a finalement une double délinquance. On a celle de la recherche des lieux dépaysés et celle du récit qu'ils en font. La différence de présentation des textes est révélatrice. Sur les chemins noirs entraîne tout de suite le lecteur dans le siège de l'auteur, marcheur, avec cette préposition sur dans le titre. Alors que ce titre axe le texte sur le terrain, le titre de Philippe Vasset, rendu flou par l'article indéfini Un livre blanc, évoque l'écriture du texte. Plutôt, les zones blanches visitées sont devenues les pages du livre blanc. Un livre blanc se présente davantage comme un journal de création, relatant les doutes et les réflexions de l'auteur sur l'objet et la forme même de son récit. Le livre de Philippe Vasset, en prenant parfois des allures de guide, invite le lecteur à investir le terrain, et notamment en le renvoyant à un site internet qui recense les zones blanches. Au contraire, les chemins noirs, noirs comme les lignes du récit, s'offrent à la seule lecture. Sylvain Tesson privilégie un genre qu'il maîtrise, le journal de voyage, et donc le journal, donc la coupe chronologique. Le récit de la marche à pied se double d'un récit introspectif, celui des cheminements mentaux, du repli et de l'esquive. Les rencontres qui ponctuent son chemin sont d'ailleurs réduites à quelques répliques et les personnes presque jamais nommées jouent plutôt le rôle de figurants. On a un vendangeur espagnol, un vieillard défiguré, une vieille dame, un promeneur et son chien. Les paysages défilent et changent au fil des régions, mais la ruralité qu'il décrit se rassemble, forme un tout comme hors du temps, propice à la guérison, une terre épargnée que de rares chemins permettent encore de rallier. Le récit délinquant de Sylvain Tesson est l'un de ces chemins. Son sillon propose finalement un empaysement salvateur en dehors du dispositif. L'angoisse de l'émiettement qui guidait sa marche trouve un apaisement dans un livre hommage à une ruralité monument. L'écriture fragmentaire de Philippe Vasset met en avant au contraire une angoisse de la fixité. Si introspection il y a, c'est celle de l'écrivain qui témoigne d'une impossibilité à dire la réalité du terrain et à capturer les traces de son passage. Les photos qu'il prend sur place sont toujours ratées, les sons se dérobent aux enregistrements, ses notes sont des brisures de texte et ses croquis ne trouvent d'écho que dans son propre souvenir. Le texte menace de formater l'instabilité fascinante des zones blanches et il faut sans cesse le reprendre pour en faire un écrit incomplet et parcellaire à l'image des lieux visités. Je le cite, « Il fallait sans cesse rabattre le texte sur l'espace nu, sans direction et empêcher la chaîne du récit de se refermer. » L'incapacité des mots à rendre le vécu du terrain est telle que Philippe Vasset imagine des installations alternatives au livre, comme l'informatique diffuse, qui permettrait de diffuser les textes sur les téléphones portables des personnes passant à proximité. Bon, il n'a pas les moyens financiers de développer ce projet, alors il laisse des feuillets écrits sur les lieux qu'il traverse et il espère des réponses, des signes. Écrire dans l'espace et faire de la littérature un dialogue, voilà les rêves artistiques de Philippe Vasset. Fuir l'urbanisme consiste chez lui à échapper au livre bien plus qu'à la modernité. Le dépaysement des interstices devient un moyen de dépayser l'écriture elle-même. Vasset souhaite ainsi porter le texte là où il n'a aucune place, je le cite, là où il est au mieux incongru, déplacé. Son récit délinquant est finalement aussi une écriture délinquante qui voudrait échapper au conformisme du livre pour mieux dire les lieux. Donc pour finir, si on doit résumer, le dépaysement fonctionne comme une esquive à l'ordre social dans ces deux textes, mais ce qui rend intéressante la comparaison, c'est qu'un même refus de l'urbanisme ne donne pas lieu à la même carte alternative et encore moins au même récit de cette carte. La dynamique de Sylvain Tesson est celle du rétablissement. La marche est un rafistolage du corps et du pays en miettes, tous les deux en miettes. à la fois une rééducation physique et la revendication d'une identité rurale menacée. À contre-courant et à l'avant-garde, Philippe Vassé dépayse l'écriture elle-même par une dynamique de l'inachèvement, inachèvement des lieux, mais également inachèvement du livre blanc qui appelle à la poursuite d'une réflexion littéraire hors du livre. Inscrire la marginalité du territoire dans le livre ou inscrire le livre dans la marginalité du territoire, on a là une double dynamique hein, du dépaysement à l'œuvre et qu'on retrouve hein, dans d'autres écritures de terrain contemporaines comme celle de François Bon ou celle de Joyce Ormond. Merci beaucoup.